Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
La suite du 10h midi avec vous, 0826-300-300 si vous voulez réagir au sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Je suis avec Jackie Isabello, communicant et cofondateur de l'agence Coriolink.
Bonjour Valérie.
Michel Pouzol, ancien député PS, membre de Génération.S. Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Jafflin, professeur de philosophie. Bonjour Emmanuel.
Cher Valérie, vous êtes bronzée.
Mais bien sûr, c'est le retour de vacances. Petit cahier d'exercice de gentillesse, voilà, c'est la pub pour votre
Vous l'illustrez, c'est pour ça que je viens.
Et Apologie de la punition chez Plon. Et puis Sandra Regol, bonjour, vous êtes porte-parole bonjour. Nationale Europe Écologie Les Verts. Au sommaire de cette émission, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Et puis évidemment, on va revenir sur la reconnaissance par Emmanuel Macron de la torture au moment de la guerre d'Algérie. Il est allé, vous le savez, hier rendre visite à la veuve de Maurice Audin, militant communiste. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il réouvre des plaies inutiles? Est-ce que c'est un travail de mémoire nécessaire? On va parler de la télémédecine. La télémédecine va-t-elle lutter contre les déserts médicaux? Est-ce que vous êtes prêt à utiliser un ordinateur pour vous faire soigner? Et puis on va parler du plan vélo. L'État peut-il encourager les Français à pédaler un peu plus? Moi, je suis un petit peu réservée. Il y a quand même eu 25 morts le mois dernier de morts à vélo. Donc, faut quand même être un petit peu prudent. Alors, on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Je vais commencer peut-être avec Michel.
Non, vous voulez pas, non. Si, je veux bien commencer, oui. Un coup de gueule.
Oui.
Alors, forcément. Un coup de gueule contre les annoncières du plan pauvreté, qui sont loin d'être à la hauteur des enjeux, qui montrent une méconnaissance de la situation dans ce pays. Tout est axé sur l'idée que seul le travail permettrait de sortir de la pauvreté. Or, on a 9 millions de pauvres en France, à peu près 4 millions de chômeurs, 4 millions et demi. Donc ça veut dire qu'il y en a au moins la moitié qui ne sont pas chômeurs, qui sont pauvres pour des raisons un peu différentes. L'idée aussi qu'il suffit de tenir un beau discours en disant « je veux éradiquer la pauvreté pour que ça soit suffisant », mais le compte n'y est pas. Et puis juste pour vous dire que, par exemple, si on voulait que tous les bénéficiaires du RSA, qui n'en bénéficient pas aujourd'hui, y aient accès, et que tous les bénéficiaires de la prime d'activité pour les salariés pauvres y aient accès aujourd'hui, eh bien, il faudrait rajouter sur la table à peu près 10 milliards d'euros par an.
Ouais.
Donc 8 milliards sur 4 ans, on va encore une fois faire des déclarations qui ne seront suivies d'aucun changement fondamental en bien pour les pauvres, mais certainement, par contre, avec l'obligation de justifier de cette volonté de retrouver un emploi quand on est pour toucher le fameux faux revenu universel.
Ça veut dire qu'on est trop pauvre pour traiter de la pauvreté, selon toi?
Ça veut dire qu'on n'a toujours pas de volonté politique pour le faire réellement dans ce pays. Je crois qu'on a les moyens de le faire, mais que la volonté politique est absente. Les pauvres ne votent pas assez. Je pense que si le jour on aura 100% de ces 9 millions de personnes qui voteront, vous allez voir qu'on va trouver des solutions et de l'argent, parce qu'il y en a quand même dans ce pays-là. Donc je suis assez en colère par ça.
Mesurette hier, selon vous, le discours était très lyrique. Hein.
Oui, mais c'est ça. Mais je suis sûr que le discours sur le vélo aujourd'hui sera aussi.
Il faut conditionner les aides à l'expression du droit de vote. C'est ce que dit Michel. En fait. Il faudrait, comme en Grèce, rendre le vote obligatoire et notamment pour les pauvres, ce qui est un programme en soi.
Et qu'on leur passe une amende s'ils ne vont pas voter.
Il faut juste pas payer. Alors, c'est une idée qui pourrait être travaillée, mais il faut juste se méfier. C'est ce qui se passe parfois dans certains pays. Moi, je pense notamment à l'Argentine. Et là, ça a donné lieu à un clientélisme incroyable. Et donc, c'est quand même des fois il faut se méfier. Le diable est dans les détails.
Oui, Sandra. Vous avez regardé un petit peu le plan pauvreté.
Oui. Alors, comme d'habitude, on a un super beau discours. Ça donne plutôt envie, hormis le petit passage sur les premiers de cordée qui sont censés toujours tirer les pauvres, comme si les pauvres n'étaient pas capables de faire des choses eux-mêmes, et en oubliant un peu que ce sont des oppressions héritées, bien qu'ils le rappellent en première partie de discours. Donc, tout ça est assez étonnant. Mais il reste quand même quelques petits points forts, malgré cette absence d'argent qu'on préfère laisser dans le CICE, où il y a 20 milliards par an, qu'on préfère laisser dans les réductions d'ISF, où il y a 5 ou 6 milliards par an, tout ça. L'argent, il est là, juste on ne veut pas le donner aux gens qui en ont besoin, puis on en donne à ceux qui n'en ont pas besoin et qui n'ont surtout pas envie de le redistribuer.
Mmh. Un petit tour de table, Emmanuel Jafflin, vous avez suivi les propositions du chef de l'État hier.
Oui, mais en fait, le concept de pauvreté, il est très fluent, hein. Dans le monde, je crois qu'il y a 2 milliards de pauvres. C'est ceux qui ont moins d'un dollar par jour. Je crois que c'est à peu près ça. Donc nous, on fixe le niveau de pauvreté à 1000 et quelques euros par mois. Non, c'est plus la même photo déjà.
Oui, mais c'est quand on parle de pauvre en France, c'est selon les données mondiales. C'est-à-dire que la définition d'un pauvre en France est la même que celle au Bangladesh.
Puis là,
c'est-à-dire
on parle...
c'est vraiment moins d'un dollar par jour.
C'est un pourcentage des salaires moyens. Enfin,
vous avez quand même des gens aujourd'hui qui ne sont pas en mesure de manger 3 repas, ouais. même 2 repas par jour. On peut parler de très grande pauvreté quand on a un pourcentage important de gens en France qui n'ont pas les moyens de manger, leurs enfants.
Je suis conscient de ça, mais
ça fait
d'un
très
autre
longtemps
côté, vous avez
qu'on
des émissions où on vous invite à manger moins, pour moins grossir, pour, vous voyez, il y a la pauvreté, c'est
alors
quand même
riches,
très relatif.
Les riches mangent moins et plus de fruits et légumes. Ils mangent
exactement.
De façon équilibrée et de façon très
Macron
chère.
Macron est riche et il n'est pas très maigre. Hein.
Non, mais
c'est
un bon sujet ce que vous dites là. Ça pourrait faire un sujet. Il y a une corrélation exacte entre le taux d'obésité des femmes de plus de 40 ans et leur niveau social et de diplôme. C'est corrélé. C'est-à-dire qu'on le sait, plus on est pauvre, en gros, plus on est en difficulté.
Mais ça, ça vaut pour l'Occident. Non, je suis désolé, moi j'ai vécu en Afrique et j'ai vécu en Amérique latine et les pauvres, ils sont minces. Il n'y a qu'en Occident où ils sont plus gros.
On ne va pas faire un débat
sur l'île de Nauru, ils sont extrêmement pauvres. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde et ils sont tous obèses. L'île de Nauru, qui est en Micronésie.
C'est la Micronésie.
Justement parce que les affres de la malbouffe sont arrivées jusque là-bas et que la grande pauvreté fait qu'une nation entière est obèse.
Jackie Isabello, le plan pauvreté hier, donc encore une fois, un discours lyrique avec des choses. Parfois un peu anecdotique, on retient. Enfin, anecdotique, je ne sais pas si celle l'est, mais sur la cantine gratuite, j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui disaient dans beaucoup d'endroits, la cantine est déjà gratuite, les repas sont à 0,79 centimes en fonction des revenus.
L'idée, c'est quand même pas d'opposer les riches aux pauvres. Hein, c'est pas ce qu'il faudrait que les auditeurs retiennent. Non, la seule question que je me pose, un peu, on en parlait tout à l'heure, l'abbé Pierre parlait d'efficacité. Il n'avait pas peur de dire qu'il était le premier lobbyiste de la pauvreté et parlait d'efficacité. On est sans doute le pays d'Europe où il y a le moins de pauvres, ça les chiffres le montrent. Maintenant, il y a trop de pauvres puisqu'on a toujours 9 millions de personnes qui sont concernées par cette définition. Et la question que je me pose, c'est de me dire, pour réduire la pauvreté, il faut parler quand même d'efficacité à un moment ou à un autre. Et notre politique sociale, ces dernières années, elle n'est absolument pas efficace puisque le taux de pression fiscale qui est appliqué sur chacun de nous, il est de plus en plus important et l'efficacité de l'argent employé
n'est pas tellement grande qu'on a de plus en plus de pauvres, etc. Donc c'est l'ensemble du système qui va dans le mur.
On est d'accord qu'il faut en changer.
Je suis très heureuse que vous
d'accord, mais
là-dessus.
Est-ce que, comme on le fait dans les entreprises, je sais que ça peut être un gros mot pour certaines personnes, est-ce qu'il faut augmenter pour voir une efficacité? Certainement pas. Là, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans le plan de Macron, c'est qu'il est toujours cohérent par rapport à ce qu'il fait depuis le début. C'est-à-dire que lui, qu'on soit d'accord ou pas, si on n'est pas d'accord avec lui, on votera pour Génération. En plus, bon, ils ont quand même besoin d'un renfort de voix parce qu'ils sont quand même très très bas. Mais il dit, pour moi, c'est le boulot.
On peut que monter.
Il faut favoriser l'employabilité. Il faut que les gamins très très tôt, hein, aux États-Unis, ils font ce qu'on appelle le move to opportunity. Il faut que les gamins sortent de cette trappe à pauvreté. Donc, de se dire à un moment, je mets de l'argent pour que l'employabilité des jeunes ce travail et que derrière ce soit l'emploi et donc l'empowerment, comme le disent les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'ils soient capables de prendre leur destin en main. Je trouve qu'à ce titre-là, c'est très... Non, mais ça marche dans plein de pays d'Afrique. Le commerce équitable repose là-dessus. Il y a plein d'endroits où des gens s'entendent. Le commerce équitable et l'empowerment, ça marche.
L'exemple américain est un exemple qui ne marche vraiment pas.
Cet aspect économico-social est plutôt intéressant. Après, on jugera si c'est efficace.
Allez, on va passer à Sandra, votre coup de cœur, votre coup de gueule.
Il y avait plein de raisons de faire des coups de gueule cette semaine, et puis je me suis dit que j'avais envie de commencer l'émission sur un coup de cœur. Effectivement, il y avait des coups de gueule sur les prochains plans qui arrivent, sur l'enfermement des militants, qu'ils soient à la ferme des 1000 vaches, ou enfin les condamnations des militants, qu'ils soient à la ferme des 1000 vaches, ou qu'ils soient hier dans les rues de Paris contre les banques d'attaque ou d'Europe Écologie Les Verts. Et puis en fait, il y a eu un super beau moment ce week-end. Il y a eu la marche climat. Une marche au climat immense qui, pendant que les gouvernements, les gens qui sont au pouvoir, les gens qui tiennent le pouvoir économique ne font rien pour qu'on sauve la planète, pour qu'on sauve les êtres humains, pour qu'on sauve le vivant, eh bien, il y a des centaines de milliers de personnes qui se sont spontanément rassemblées. Alors, bien sûr, à Paris, on a l'habitude de voir des gros rassemblements. Jamais aussi gros que celui-ci. On était autour de 50 000 personnes à peu près. Mais là où c'est très étonnant, c'est qu'il y a des toutes petites villes de moyenne taille, je sais pas, j'ai l'exemple de Thonon en tête, où il y avait 250, 300 personnes qui se sont rassemblées spontanément. Oui. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'au moment où on dit que les Français en ont marre de la politique, qu'ils ne votent pas, etc., mais les Françaises et les Français, ils sont allés faire de la politique dans la rue et ils sont allés dire « Nous, on en a marre, on veut que ça bouge, on veut que vous sauviez nos enfants, on veut avoir le droit de respirer normalement. » Et les slogans dans cette manif, dans toutes ces manifs à travers la France, étaient à la fois très environnementaux et très sociaux, et était porteur d'espoir. Et ça, ça donne quand même envie pour les générations futures.
Bon, donc c'était votre coup de gueule. Emmanuel, vous vouliez revenir sur...
Sur Bertrand de Rochambeau, le président du syndicat national des gynécologues obstétriciens, qui m'a surpris. Et vous verrez dans quel sens. Il a dit « Nous ne sommes pas là pour retirer des vies ». Et je me suis dit « C'est quand même assez rare ». Parce qu'un gynécologue, celui qui s'occupe de l'intimité de la femme. Obstétricien, c'est celui qui s'occupe de la grossesse. Et donc, éventuellement, de l'avortement. Donc, on ne peut pas faire cette carrière en ne s'apprêtant pas à faire avorter quelqu'un. Et lui a dit non. Alors j'ai trouvé ça un peu bizarre. Moi, je réfléchis un peu aussi à cette question. J'en ai parlé plusieurs fois. Mais à partir de quand commence un être humain ? Valérie, prenez votre photo aujourd'hui. Comparez-la avec une d'il y a 10 ans, une d'il y a 20 ans, une d'il y a 30 ans, je m'arrête. Et une de le premier jour de votre naissance. Vous êtes très différente. Même si vous êtes très bronzée aujourd'hui, vous êtes très différente à chaque fois. Et pourtant, il y a un continuum. On est tous d'accord pour dire que c'était Valérie l'expert. Petite, plus grande, plus journaliste, plus médiatique. Mais c'est toujours Valérie.
L'expert, on sait.
Et toujours aussi charmante.
Elle a changé de nom depuis.
Si on fait la philosophie, on va dire que pour Héraclite, par exemple, un des premiers philosophes, on ne peut pas descendre deux fois de suite dans le même fleuve parce que le fleuve change tout le temps. Donc ce n'est pas la même chose. Le zygote, c'est-à-dire la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, puis évidemment de l'embryon, puis du fœtus, puis de la naissance. Pourtant, je vous rappelle qu'il y a des prématurés à 21 semaines et 5 jours. Ça date de 1987. Ça s'est répété en 2011. Et on avorte au-delà de 5 mois et demi. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On tue, on tue pas, on fait vivre, où commence la vie ? Et alors, je vais finir mon propos, parce que j'adorerais qu'une femme s'exprime sur l'avortement, évidemment, ou sur la naissance. Mais il faut quand même se dire que une femme qui avorte, elle n'avorte pas que d'un garçon, elle avorte aussi d'une fille. Et alors l'idée que ce soit féministe l'avortement me paraît quand même philosophiquement intéressant parce que c'est une femme qui va tuer une fille qui, dans le cas d'un prématuré, va être accueillie, à qui on va donner un prénom et qui, dans l'autre cas, va être supprimée. C'est juste une question philosophique, mais est-ce qu'il y a un continuum dans la vie où la vie, c'est du bricolage, on invente parce qu'on accepte ou parce qu'on refuse ?
Donc quoi ? Donc au final, j'ai suivi à peu près, mais vous êtes choqué ou pas par les propos de ce...
Mais non, je suis plutôt étonné positivement, c'est plutôt un coup de cœur, mais il est revenu en arrière en disant, c'est pas en tant que président des syndicats, c'est en tant qu'individu, j'ai du mal dans mon métier à faire cet acte-là.
Oui, mais c'est pas... Oui, il est quand
c'est
même
un coup
président.
De cœur sur son intervention et un coup de gueule parce qu'il est revenu en arrière.
Ah, c'est effectivement assez iconoclaste comme position, mais on va continuer à débattre sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, les coups de cœur, les coups de gueule
c'était
de ce
chaud,
matin.
Hein.
Oui, mais font débat. Donc, vous avez évoqué les propos donc, de ce médecin sur l'avortement qui parlait d'un homicide. Vous dites que vous étiez agréablement surpris, Emmanuel Jafflin. Je sens un peu de provoque quand même dans vos propos. Sandra, vous vouliez répondre.
Oui, alors on a un peu commencé le débat hors antenne.
Sandra Regol, donc porte-parole nationale Europe Écologie.
Il ne faut pas faire avorter le débat, on est d'accord, Sandra.
Voilà. Pour continuer dans les jeux de mots précieux. Je suis toujours épatée quand les hommes nous expliquent, à nous femmes qui sommes un peu contraintes de porter les enfants, ce qu'on devrait faire avec notre corps. Parce que, en fait, si vous pouviez porter les enfants, on pourrait avoir ce débat sans souci sur l'avortement. Là, il se trouve que si demain, Valérie couche avec quelqu'un qui n'est pas précautionneux, qui a un accident avec un préservatif ou autre, elle n'a pas le choix, si elle ne prend pas la pilule, si elle a eu un souci de pilule, que d'avoir un enfant dans son corps. Ce qui n'est pas votre cas à vous, les hommes, qui, quand vous perdez un peu de votre semence, n'avez pas à gérer les conséquences. Et ça fait quand même une très grosse différence. C'est que vos inconséquences sont payées par les femmes. Et que, de fait, parfois, l'IVG peut se légitimer comme ça, et se légitime comme ça. Et j'ajoute juste une dernière chose.
On va pas faire de débat sur l'IVG. Là, c'est
juste
sur les propos
juste
de ce,
pour
ce
finir,
médecin.
Personne n'est pour l'interruption, personne n'est pour perdre un embryon. En revanche, toutes les femmes qui recourent à l'IVG, et même les hommes qui les soutiennent dans cette démarche, considèrent qu'on a le droit de disposer de son corps, qu'on soit homme, qu'on soit femme, quel que soit son statut. Et ça, c'est très important. Et quand le patron des gynécos remet en cause ce droit en France, où il a été difficile à garder, et alors qu'il est en recul en Europe, on ne peut être quinquier, parce que ça veut dire moins de droits pour les femmes, mais aussi pour les hommes.
Il est remis en cause en France,
juste préciser que ce n'est pas le syndicat majoritaire des gynécologues. Hein. C'est normalement, c'est celui qui est présidé par le docteur Nizan, qui est... qui a des opinions un petit peu différentes. Voilà. Le coup de cœur ou le coup de gueule de Jackie, Isabello ?
Alors, mon coup de cœur, hein, je vais avoir un coup de cœur. Les choses évoluent dans l'univers du travail. L'agence France Entrepreneur fête ses 40 ans. C'est une agence qui a été créée par Raymond Barre pour accompagner les gens vers la création de leur emploi, c'est-à-dire la création d'entreprise. Et on est vice-champion d'Europe du nombre de créations d'entreprises. Alors, en France, on continue de dire d'être entrepreneur, d'être travailleur indépendant, c'est terrible, c'est de la trappe à pauvreté. Et les gens, et notamment les femmes, s'aperçoivent que elles gèrent beaucoup mieux leurs contraintes maternelles et professionnelles. Certains métiers compliqués gèrent beaucoup mieux la relation avec la clientèle. Et les chiffres, année après année, augmentent. Et les gens sont en train d'organiser une autre façon de travailler. Et si on essaye de les déprimer, eh bien eux, pour certains, ils cumulent les emplois et les chiffres augmentent. Moi,
c'est une bonne nouvelle. Ça part de quoi ? De auto-entrepreneurs ?
Alors, tous les chiffres augmentent. C'est-à-dire que vous avez... Je rentre dans le détail. Donc, vous avez deux
rapidement,
statuts
mais
rapidement.
C'était une question.
Vous avez un travail individuel qui peut être un micro-entrepreneur, parce que maintenant, ils ont changé de nom. Ça s'appelle un micro-entrepreneur. Et puis, à côté, vous avez des formes sociétaires. C'est-à-dire que les patrimoines...
Vous trouvez ça bien, le micro-entrepreneuriat ? Parce que moi, j'ai fait un coup de gueule il y a quelques jours sur ces patrons qui ne veulent plus payer les cotisations sociales. Et qui de plus en plus exige.
Mais Valérie, je pense que en France, systématiquement, on voit toujours le bout du verre à moitié vide. Moi, j'ai toujours été entrepreneur. Je travaille avec des auto-entrepreneurs. Il y a des gens qui s'épanouissent en organisant leur vie comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des salauds à côté, mais comme dans tous les domaines, vous savez, je suis fils de pompier, je connais des pompiers alcooliques. Mais il y a une majorité de gens qui sont très, très bien. Ouais. Et donc,
c'est quand même une tendance. J'ai vu que Sandra réagissait aussi. C'est quand même une grosse tendance aujourd'hui.
Ne nous expliquez pas qu'en France, on est, d'un point de vue du droit du travail, on est véritablement à plaindre. Au Bangladesh, il faut forcer les entreprises à reconnaître leurs responsabilités quand elles font des vêtements. Mais il y a des choses qui ne vont pas bien en France. Mais qu'on ne les force pas,
je ne suis pas d'accord avec vous. Sur la création d'entreprises, on oblige... Aujourd'hui, il y a des sociétés qui licencient artificiellement, qui réembauchent les mêmes salariés en micro-entrepreneurs, c'est une vraie grosse tendance aujourd'hui.
Donc, il faut détruire l'ensemble de ce secteur-là, c'est ça, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont blâmables, c'est ça ?
C'est pas quelques-uns, c'est énormissime,
pas une grosse tendance. Sur 650 000 personnes qui créent leur entreprise chaque année, vous n'avez pas 650 000 personnes qui sont contraintes de créer leur entreprise, parce qu'il y a un salaud patron qui... Moi, je suis pas du tout d'accord, en tout cas. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle, parce que les gens ne sont pas contraints de faire ça. Ils le font par eux-mêmes. Et s'ils étaient contraints, il y a des choses qui sont assez puissantes.
Vous raconte l'histoire d'une jeune fille que je connais qui cherchait un travail de serveuse, qu'on a embauché en micro-entrepreneur. Vous trouvez ça normal ? C'est de la précarisation.
Il y a plein de gens qui abusent dans plein de domaines. Il y a des gens qui conduisent mal leur voiture, qui conduisent mal leur vélo, qui violent leur fille, qui tapent leur voisin, qui se battent dans des aéroports.
Arrêtez avec des comparaisons aussi ridicules sur les sujets entre le Bangladesh et le viol. Il y a des dérapages sémantiques qui sont quand même incroyables. Moi, je veux dire, vous parlez du choix.
Donc les analogies que je me souviens très couramment Benoît Hamon, vous les trouvez assez stupides en mélangeant les sujets.
Excusez-moi, vous avez un problème avec Benoît Hamon, vous le réglerez avec lui, ça apparemment. Mais excusez-moi, quand on parlait du choix, moi je me souviens quand je travaillais dans la grande distribution.
Ne créez pas votre entreprise.
Laissez-moi finir.
Tous les entrepreneurs sont des salauds.
Quand je travaillais dans la grande distribution et que j'arrivais devant un patron qui me disait voilà, le travail c'est dimanche, samedi, la nuit, j'avais pas le choix. C'était où je prenais le boulot et je le faisais. Et alors, bien sûr, mon patron me disait.
Il n'y a pas de conseil des prud'hommes en France, il n'y a pas de deuxième chambre sociale de la Cour de cassation.
Mais vous vivez sur quelle planète ? Allez bosser dans la grande distribution.
Mais moi, monsieur, ça fait 30 ans que je crée des entreprises. Et je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a traité au prud'homme. Il y en a plein des patrons comme ça. Et le patron aussi.
Parce que c'est très compliqué de passer au prud'homme et qu'après, votre employabilité est largement.
Voilà. Et donc, ce message qui est de dire tous les entrepreneurs sont des salauds en France, vous comptez
pas du tout. Non, absolument pas.
On a parlé de la notion de choix.
Moi, c'était un coup de cœur. Et bien,
vous trompez sur le choix.
Moi, j'en connais des centaines de milliers déjà.
Et moi, j'en connais des centaines de milliers.
Je suis allée dans le sens de votre coup de cœur.
Et pardon, mais je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. J'accompagne depuis 20 ans des jeunes entrepreneurs en pro bono pour leur expliquer comment créer leur entreprise.
En fait, Jackie veut pas nous écouter.
Ne transformez pas mon coup de cœur en décadence de l'entrepreneuriat.
Mais ces entrepreneurs, c'est son côté gauchiste et encore marxiste.
Non. La, ce n'est pas ce que j'ai dit. Allez,
vous ne pouvez rien dire. On se retrouve dans quelques instants. On va calmer le débat tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Le débat est très animé ce matin sur Sud Radio, mais souvent, hein, comme souvent, entre 11h et midi. Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Michel Pouzol, ancien député PS, membre de Génération.S. Emmanuel Jafflin, professeur de philosophie. Et Sandra Regol, président. On dit Regol ou Régol ? Regol.
On peut dire les
deux. On peut dire les deux. Porte-parole nationale, Europe Écologie, Les Verts. On a fini notre tour de table, on va pas rouvrir le débat.
Et l'entreprise, c'est une aventure, c'est ce que je voulais dire, y compris quand on fait des enfants, c'est une entreprise. Et on aime le salariat dans ce pays, et dans le salariat, il y a ça.
Vous faites des enfants pour qu'ils soient rentables, vous ? C'est un peu dégueulasse.
Pourquoi pas ? Oui, c'est intéressant, les enfants.
Allez, moi, je voulais juste un mot sur les goodies de l'Élysée. L'Élysée propose à la vente, à partir de ce week-end, une cinquantaine de produits dérivés donc de la République pour financer la rénovation des bâtiments de l'Élysée. Donc, il y a 56 produits qui coûtent moins de 15 euros. Il y en a qui sont plus chers. Des t-shirts à 55 euros, des mugs à 25 euros. C'est quand, avec le portrait officiel du président de la République. Vous pensez que c'est une bonne idée ou pas ?
Bon, je trouve que c'est plutôt amusant. Enfin, je vois pas le
problème. Oui, parce que le Sénat le fait,
le Sénat le fait, pourquoi pas. Après, j'espère que l'Élysée a été assez prudente pour que les t-shirts ne soient pas fabriqués en Chine, au Bangladesh.
Non, c'est du Made in France, c'est une vingtaine de francs de fabrication.
Je suis d'accord avec vous.
Ça, c'est la seule question qui se pose. C'est si c'est des produits français faits, que ça fait plaisir. Vous savez, les Français, moi, je trouve ça vachement bien qu'ils soient quand même attachés à la fois à leur système démocratique, à leur assemblée. Voilà, donc c'est plutôt une bonne idée. Moi, vous savez, j'ai très surpris au Sénat, à l'Assemblée, pardon, parce que je me disais, personne n'achète ce genre de trucs. Le nombre de gens pendant 5 ans qui m'ont demandé une peluche, c'est incroyable, donc ça plaît. Bon.
Je trouve que c'est
une meilleure idée que le loto.
Puis comme le gouvernement a mis une priorité sur l'écologie, on peut donc supposer de la même façon que l'ensemble des t-shirts sont en coton bio.
C'est le slip français, donc marque française.
Le slip français qui fait partie de l'économie sociale et solidaire, donc voilà, une très très bonne.
Chocolatier Pierre Hermé pour les macarons aux couleurs tricolores. Lip pour les montres et Omi pour des livrets de coloriage.
Et voilà. Vous voyez, c'est pas une si mauvaise idée, même si ce sont des objets qui finissent généralement.
Parce que bio, ça veut pas dire que ça respecte les conditions sociales optimales. Le coton équitable, ça respecte. Et qui est le premier à le faire ? Et ben, La Poste. La Poste équipe l'ensemble de ses facteurs de gilets en coton équitable, non pas bio. Permettez-moi de vous reprendre si vous le permettez, mais plutôt en coton équitable, parce que là, la chaîne économique de gens qui créent des entreprises en Amérique du Sud ou ailleurs,
c'est vertueuse. Ce qui est lié au service public, les actions les plus vertueuses, et pas les entreprises que vous nous citiez tout à l'heure en rentaine. On est tout à fait d'accord.
Donc le service public est vertueux et le reste de l'économie est non vertueuse. On retiendra ce propos. Et puis aussi, on retiendra...
C'est quand même incroyable, parce que c'est bien d'être communicant, mais à un moment donné, il faut respecter le sens des mots.
Je suis entrepreneur, madame.
D'accord.
Depuis 30 ans, j'aide l'État à payer des impôts pour qu'elle garde sa grandeur, en respectant les droits du travail.
Je suis un entrepreneur avant d'être un communicant. Vous pouvez peut-être juste me laisser terminer. En plus, vous nous avez tous les trois absolument pas laissé vous répondre, mais j'allais vous dire que je suis assez d'accord avec vous sur le coup de cœur qu'il y a à développer l'entreprise en France. Oui. Je suis d'autant plus ravie que vous mettiez ça au milieu, parce qu'il y a un secteur qui a extrêmement bien résisté à la crise, qui continue à créer des emplois, qui continue à créer des entreprises, qui s'appelle le secteur de l'économie sociale et solidaire.
Je suis d'accord. J'ai beaucoup travaillé pour eux.
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'alors que tout le reste du secteur des entreprises, parce que vous avez parlé du nombre de créations, mais pas du nombre d'entreprises qui meurent dans les 3 années qui suivent.
Alors vous allez dire des faux chiffres, je les corrigerai juste après. Vous allez me parler des 50% qui est un chiffre qui est faux.
En fait, je ne vais pas noyer les auditeurs et les auditrices sous les chiffres. Je vais juste rappeler que l'économie sociale et solidaire, ça représente 10%, 11% de l'emploi salarié en France, que c'est un secteur qui n'a pas subi la crise, qui continue à créer de l'activité au plus proche de chez soi, et des métiers qui soient engageants et pas des métiers dont on est honte et qui soient compliqués, des métiers qui permettent de ne pas avoir à dormir, par exemple, dans le café où on travaille quand on n'a pas le temps d'entrer chez soi. Et donc, oui, cette économie-là, il faut l'aider, il faut l'encourager, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout, que ce soit au niveau local, à quelques exceptions près de régions, comme l'Occitanie par exemple, ou au niveau national, rien n'est fait pour aider les entreprises qui créent de l'emploi et les entrepreneurs et les entrepreneuses qui veulent en créer. Et ça, c'est un vrai souci.
Allez, on va passer à notre premier sujet. Enfin, on en a déjà abordé pas mal, mais le sujet en tout cas qui a qui fait réagir Emmanuel Macron. Le président de la République a reconnu hier la mort sous la torture de Maurice Audin, militant communiste disparu en pleine bataille d'Alger. C'est un discours, un changement de discours important. Fallait-il rouvrir ce dossier douloureux de la guerre d'Algérie en reconnaissant la torture et la responsabilité de l'État? Emmanuel Macron a relancé la polémique. Aujourd'hui, beaucoup de victimes, des musulmans, des pieds noirs, des harkis, des civils, beaucoup réclament justice et demandent également la reconnaissance. Quel est le sens de cette prise de position d'Emmanuel Macron, selon vous?
Eh ben, je trouve que c'est un signe. Un homme politique, il a des projets pour faire évoluer la société, il envisage le futur, mais il est aussi tourné vers l'histoire, donc c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que la charge est grande. Rappelez-vous que Sarkozy avait fait ça également avec, comment s'appelait-il celui-là, le Guy Moquet, vous vous rappelez?
Oui.
Donc on sent que chaque homme politique, pour brouiller un peu les pistes et montrer qu'il a une vision globale de son pays, va chercher un exemple qui est vraiment pas, c'était un communiste aussi, donc c'est pas vraiment la table de chevet d'Emmanuel Macron, mais il y a quelque chose de positif. Moi je voudrais en profiter, puisqu'on est à la radio, je suis pas sûr que ce soit écouté au Vatican, mais il y a un philosophe qui s'appelait Giordano Bruno, qui a été brûlé en 1600 au Campo del Fiori par le cardinal Bellarmine. Et Bellarmine, et il faudrait aujourd'hui ce cardinal qui a été béatifié, canonisé, docteur de l'Église, il faudrait peut-être le déclasser et reclasser le philosophe pour montrer qu'il était encore plus en avance que Copernic sur l'astrophysique. Et à l'époque, le savoir était mal vu. Je ne sais pas si le pape fera quelque chose d'aussi osé que le fait Emmanuel Macron.
Alors on a Thierry qui voulait réagir sur ce sujet. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour. Effectivement, moi j'étais un petit peu choqué de voir que notre président de la République fasse des erreurs monumentales, opposer les souffrances aux souffrances, reprendre, réouvrir
le dossier de la guerre d'Algérie.
Voilà, exactement. Je trouve que pour moi, c'est pas très sérieux et même ça peut être dangereux d'opposer les Français aux Français. Il s'est passé ce qui s'est passé, je le comprends, bien entendu, mais il faut se remettre dans le contexte de ce qui s'était passé. L'Algérie était française. Donc cette personne, alors j'ai plus le nom exact en tête maintenant.
Maurice Audin.
C'est ça, Maurice Audin, absolument. Il était considéré comme terroriste, on est d'accord. Il a tué des gens, cette personne a tué des gens, des enfants, des femmes.
Non.
Des
non
hommes.
Plus. Non. Justement, il n'a tué
justement,
personne.
C'est ça. Non. Justement, c'est pour
c'est
ça.
C'est justement ce qui est particulier. Il avait 25 ans, il était prof de mathématiques, il faisait sa thèse. Alger, il avait 3 enfants. Et la seule chose que lui reprochaient les autorités, c'était de tracter pour le PC. Et c'est la seule chose qui lui soit reprochée. Ah, c'est bien pour ça que c'est quelque chose d'emblématique.
Oui, revoir l'histoire, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, c'est un petit peu ce que rappellent les historiens au lendemain donc, de cette déclaration d'Emmanuel Macron hier. C'est de se remettre dans le contexte d'une guerre civile où il y a eu des atrocités commises des deux côtés. Ce matin, j'entendais une jeune femme qui dit ce qui serait bien maintenant, c'est qu'Emmanuel Macron demande pardon aux habitants de nos banlieues. Ce serait une grande première pour un président. Donc là, je pense qu'il a ouvert la boîte de Pandore à des demandes de reconnaissance. Les harkis ne sont pas contents, les pieds noirs ne sont pas contents.
Le en même temps aurait été une très belle technique, je pense. L'idée, c'est pas de contester toutes ces atrocités, d'opposer les gens, et ça, c'est un peu dommage, mais le et en même temps aurait pu être une grande prise de parole, reconnaître ce qui s'est passé, et notamment vis-à-vis de la famille de Monsieur Audin, mais vis-à-vis de tout un tas de gens. Vous parliez des harkis, vous parliez de tout un tas de Français qui avaient vécu là-bas et qu'on a renvoyé manu militari sur le territoire. Ça aurait peut-être été l'occasion, de la part de quelqu'un qui n'a pas connu cette période, de véritablement aborder les deux aspects. Alors après, Emmanuel Macron, il donne des gages, il va commencer à partir en campagne, donc il est tellement intelligent que je pense qu'il sait très bien à qui il donne ses gages. Après, peut-être qu'il donne aussi des gages, et ça a été assez peu commenté, à un pays qui est très important pour nous dans la lutte contre le terrorisme et l'islamisme radical, c'est l'Algérie. Puisque vous savez que l'Algérie a une action extrêmement importante dans sa région pour contenir les réseaux islamistes et notamment pour pas qu'ils ne passent en Tunisie. Donc est-ce que ça va jusque-là? Alors très honnêtement, même si je sais que ça se fait, je n'en sais rien si c'était dans son état d'esprit. Mais voilà, le en même temps aurait pu nous servir, et force est de constater que là, il n'a pas servi à Emmanuel Macron. Il oppose les uns aux autres.
Oui. Enfin, il faut revenir aussi sur le fait que c'était une bataille de la famille depuis...
Et de Cédric Villani.
Ah, oui. Donc c'était une vraie bataille là-dessus. On n'a pas fait le bilan de la guerre d'Algérie dans ce pays. On le sait bien. On n'a jamais abordé ce sujet. On n'a pas abordé le problème des harkis, on n'a pas abordé le problème des rapatriés. On a mis on a mis une chape de plomb sur ce sujet-là. Donc tant qu'on n'aura pas été au bout d'un travail
justement,
d'histoire...
Justement, il l'ouvre là, et puis c'est un honneur pour sa femme qui est encore vivante.
Mais bien entendu.
Et toujours amoureuse, mais bien entendu, trouve que quand même c'est positif.
Mais c'est ce que je dis, c'est très positif. Et la deuxième étape suivante,
c'est juste normal, c'est
l'étape suivante qu'il a annoncée, c'est la déclassification des archives qui vont permettre aux historiens d'avoir un travail de fond là-dessus, même si on voit bien ce qu'il y a... Rappelez-vous qu'il n'y a encore pas si longtemps, quand le général Ozarès publiait son livre en évoquant la torture, ça faisait encore des cris de scandale partout, parce que c'est récent, alors que cette guerre, elle a mon âge. Oui. Donc c'est encore récent, parce que notre société française n'a pas été au bout de ce moment, de son histoire. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des États-Unis avec le Vietnam, qui au contraire, on a fait une espèce de... on prenait des exemples tout à l'heure, on a fait une espèce de catharsis permanente via le cinéma, la littérature, etc. Nous, on n'a pas fait ce travail-là. Eh bien, il ne faudra qu'une génération le fasse, que le président Macron décide de le faire. Moi, je vous dis, même s'il a derrière des arrière-pensées...
Les Vietnamiens n'ont jamais eu de député au Parlement français, ce qui était le cas des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, donc c'est plus compliqué.
Vous ne m'entendrez pas dire souvent, mais pour une fois, je dois avouer que je suis assez ravi que le président Macron ait fait cette démarche-là, et je trouve que c'était une bonne idée, même s'il a des arrière-pensées.
Mais comme Sarkozy, avec Mokhtar, évidemment.
Oui.
Alors c'est quand même une décision qui reste de l'ordre du symbolique, c'est-à-dire qu'il y a un cas sur beaucoup, c'était certainement le plus emblématique, parce que le plus injuste, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. C'était d'ailleurs les premiers propos de sa veuve, Juliette, je crois, qui disait je suis pas heureuse, je suis juste soulagée, mais maintenant personne n'est en capacité de me dire, personne n'a le courage de témoigner pour me dire ce qu'il est advenu de mon mari qui n'avait rien à faire sur la torture.
Il n'y en aura pas d'ailleurs.
Et on ne sait même pas où est son corps. Ne sait pas quand il est mort, on ne sait pas comment il est mort. Et ça, je comprends l'acte symbolique d'Emmanuel Macron et je le salue, parce qu'il n'y a pas de honte à saluer les choses qui sont très bien. Il ne fait que répondre aux déclarations qu'il avait faites en Algérie lors de son voyage de l'an dernier, donc c'est la suite logique. En revanche, ce qui me gêne, c'est que ça ne reste qu'un exemple symbolique, qu'effectivement le travail de deuil de cette période, et donc le travail qui permet de ne pas opposer une partie de la population à une autre, n'a pas été fait et n'est même pas envisagé. Là, on est vraiment que sur l'acte symbolique, on n'est que sur l'action de communication, et que ce qu'il est important et primordial de faire, et qu'on voit aux États-Unis sur le cas du Vietnam, avec cette grande production de films qui revient, qui permet à chaque camp de pouvoir refaire sa lecture de l'histoire, n'existe pas en France, où on voit que les rares cas de fiction autour de cette période-là provoque à chaque fois un drame national. Si on en est à chaque fois sur un drame national, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à retravailler dessus, et que tant qu'on n'aura pas fait ce deuil collectivement, ça restera quelque chose qui nous oppose.
Je crois aussi que la politique, c'est
là où ça devrait
vers
nous unir
et pas que vers le
passé. Alors
justement,
donc
si on passe son temps tourné vers le passé,
en tant que philosophe, vous savez que l'avenir se construit aussi du passé.
Il faut être à la fois tourné vers l'avenir.
Non, mais je réponds à sa question en tant que philosophe. Justement, il s'intéresse aux deux, mais il va pas passer son temps en arrière à reculer, alors qu'il est là aussi pour faire avancer le pays. Et que cette femme reconnaisse, que l'État reconnaît, c'est une double reconnaissance qui me paraît positive pour la France.
Alors Emmanuel Macron avait dit d'ailleurs en 2017 à Alger, il avait dit à un jeune qui l'interpellait justement sur le passé colonial de la France, regardez vers l'avenir.
De mais façon un peu paternaliste et déplacée d'ailleurs.
C'est vrai qu'il livre quand même beaucoup.
On ne peut pas élaguer l'ensemble des témoignages de gens qui sont revenus, qui ont vécu des choses atroces, des 30 000 jeunes soldats français qui ont été tués. Il y a eu des spoliations. Le boulot du président de la République, c'est pour ça que je disais que c'est un message politique, c'est quand même de réconcilier, et d'autant plus en ce moment. On va démarrer une séquence électorale qui va voir tous les populistes de tous les pays s'opposer sur le thème de l'immigration. Je pense qu'il aurait plutôt eu belle affaire à ouvrir ce dossier, c'est pertinent, mais pour réconcilier. Et sous cet angle-là, il ne le fait pas. Après,
il avait besoin de gage à gauche.
Pour l'instant, les Français sont plutôt intelligents, parce que je n'ai pas entendu de témoignages qui consistaient à accabler l'armée, ce qui serait complètement stupide, de remettre en question le système démocratique tel qu'il a été construit, parce que c'est l'Assemblée nationale qui a pris la décision. Donc, je trouve que les opinions, alors qu'elles sont parfois exacerbées, elles ne sont pas si violentes. Prenons exemple sur la population française et puis permettons à ce débat de se faire dans sa complétude.
Allez, on se retrouve dans un instant. On aura David, Chantal avec nous qui nous ont appelés au 0826-300-300 pour réagir. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous pour le 11h midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff. Nous parlons donc de la déclaration d'Emmanuel Macron hier qui a reconnu la mort sous la torture de Maurice Audin. Vous êtes nombreux à réagir au standard. On a avec nous en ligne David. David, bonjour.
Bonjour mesdames, messieurs, bonjour.
Bonjour.
Alors, je voulais simplement dire, me référant en particulier à une émission sur vos ondes hier, que la déclaration d'Emmanuel Macron, c'était un minimum, j'estime. Après, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir attendu d'avoir de quoi formuler des excuses auprès de tous les gens qui avaient été victimes de cette guerre affreuse. C'était une guerre civile presque. Et donc, mais par contre, il y a une chose qui m'a scandalisé, mais qui m'a écœuré. Est-ce que c'est par bêtise des auditeurs, par méconnaissance de l'histoire ou par lâcheté, c'est que plus de 85% des votes ont été contre le fait. Enfin, on dit que 80%, plus de 85% des auditeurs ont dit qu'il n'y avait jamais eu de torture en Algérie de la part des Français. Alors, les Fédagas ont torturé, ils ont coupé les testicules aux soldats français en les leur mettant dans la bouche après les avoir égorgés, mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc, je trouve que c'est de la lâcheté ou alors de la bêtise.
Ouais. Non, mais je pense que oui, après, tout dépend comment la question est posée, qui vote, c'est toujours, ces sondages sont toujours à prendre avec beaucoup de précautions. On a Chantal également en ligne avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à toute votre équipe. Bonjour. Votre débat est très intéressant et je trouve, moi aussi, je suis très choquée que Macron se permette de reconnaître actuellement toute cette misère, effectivement, qui a été pratiquée, toutes ces tortures pratiquées pendant cette guerre d'Algérie. Mais de l'autre côté, on oublie, d'abord, c'est pas nous qui avons déclenché les hostilités, ce sont bien quand même les Arabes, les Algériens. Et d'autre part, la torture, elle a été pratiquée par l'armée, mais elle a été pratiquée aussi dans l'autre camp. Et quand on trouvait des femmes enceintes avec le ventre ouvert, etc., des militaires, comme disait l'auditeur précédent, torturés aussi, égorgés avec les testicules, les bijoux de famille dans la bouche, etc. Est-ce qu'on a oublié tout ça? Alors on voit que d'un côté, on voit pas l'autre côté. Et quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, c'était pour sauver l'Algérie française. Il a lui-même dit Algérie française au forum. Et après, il a vendu l'Algérie. Parce que tout ça était prévu d'avance. Et plutôt que de renvoyer des troupes, de faire un massacre tel que ça a été, c'est lamentable. Et d'autre part, à ce moment-là, effectivement, on trouve d'autres voies pour réunir les communautés, refaire, disons, tendre la main pour revoir la situation, mais pas en période électorale, préélectorale. C'est dommage, ça tombe juste en période préélectorale. Et d'autre part, je trouve qu'il a été élu pour donc garder l'Algérie française. Et qu'est-ce qu'on a fait par rapport aux militaires qui étaient là-bas? Et qu'est-ce qu'on a fait surtout par rapport aux harkis, par rapport aux troupes engagées pour nous? On les a laissées, on en a abandonné une grande partie sur ordre de De Gaulle, et qui a laissé des troupes massacrées sur place, alors qu'ils s'étaient battus pour nous. C'est quoi ça? Et ces gens-là, on ne leur rend pas hommage?
Mais voilà, Chantal, c'est la question que je posais en début d'émission. Est-ce que cette reconnaissance va pas soulever, ouvrir la boîte de Pandore, comme on dit, ouvrir la porte à des demandes de...
On voit que cette boîte est ouverte et on voit à quel point encore ces plaies sont ouvertes. Les gens qui ont 70 ans en France, vous ne pouvez pas finir une discussion avec eux parce qu'ils le vivent dans la chair de leurs amis.
Complètement.
Ils ont perdu des amis. Et donc, c'est délicat, c'est difficile. Si c'est un objectif politique, on l'a compris. Mais si l'idée, c'est d'opposer, alors que l'Europe est quand même en vrac, avec des enjeux politiques qui sont très, très importants, je trouve ça un peu inconscient.
Peut-être que c'est d'autant plus nécessaire quand on entend les réactions. Et là, vous avez raison de souligner que c'est quelque chose qui est tribal, qui est vraiment ancré. Ouais. On se dit que le travail n'a vraiment pas été fait défrichage historique. Ouais. Et justement, ce geste qui vise à ouvrir les archives pour découvrir le pire, et surtout le pire, elles vont être nécessaires pour arriver à faire le bilan de ce qui a été fait. Après, la question de qui a commencé, quand on est un pays colonisateur qui a décolonisé l'essentiel de ses colonies, à l'exception d'une, c'est compliqué de dire qui a commencé, parce qu'il y a une violence symbolique et à laquelle riposte une violence physique. Je me permets de répondre à votre auditrice dont j'ai un peu oublié le nom. Je comprends,
Chantal,
que ça vous choque. En revanche, il est très compliqué de dire que ce sont les Algériens qui étaient français à l'époque, je vous le rappelle, qui soient responsables de quoi que ce soit.
On ne va pas refaire le débat.
On ne va pas le refaire.
Mais il faut rappeler aussi quand même que l'arrivée de la torture sur la guerre d'Algérie, c'est d'abord sur la bataille d'Alger, au moment où on donne à l'armée les prérogatives de la gendarmerie et de la police. C'est-à-dire qu'on leur donne mission de police, et c'est à ce moment-là où franchement la torture est utilisée quasiment de manière systématique dans Alger. Donc c'est pas non plus... Voilà, c'est un sujet extrêmement complexe. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut ouvrir les archives.
Même ce que vous dites là est sans doute pas complètement vrai, parce que vous avez eu les témoignages qui ont été apportés, et ça s'est fait, mais je pense, ne rentrons pas dans les détails, parce que de toute façon, on ne peut qu'exacerber tout ce qui s'est passé, et on voit bien que ça fracture les communautés. Je crois que c'est ce qu'il faut... Je pense que de temps en temps,
est plus grave que les fractures
que le politique. Parce que vous savez, quelqu'un qui a été rapatrié et à qui Gaston Defferre a dit « Vous ne resterez pas à Marseille parce qu'il y en a trop, on va vous envoyer en Normandie », ces personnes-là ont eu l'impression d'être deux fois des étrangers.
Les familles à qui on a tout pris, à qui on a pris leur nom,
il ne faut pas refaire. Et nous, on doit être un peu plus intelligents que le politique. C'est de se dire, est-ce que si on est capable de prendre du recul et dans nos conversations le week-end, dans nos débats, d'essayer de mesurer les choses et de se dire, est-ce que c'est véritablement utile ?
Sauf que c'est pas toujours facile avec ce sujet-là, c'est ce qu'on a dit.
On opérera une espèce de reconquête sur l'intelligence.
Un tout petit peu de pub pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément de quoi on parle. Il y a une bande dessinée qui s'appelle Carnet d'Orient, par Hérandez, qui est chez Casterman, qui raconte toute l'histoire de l'Algérie, notamment.
Oui, Benjamin Stora, c'est aussi quelqu'un d'incontestable.
Oui, mais ça, c'est la BD, donc c'est vachement bien.
C'est plus accessible pour un jeune public.
C'est plus accessible, et ça commence aussi par comment on a colonisé l'Algérie, et c'est assez intéressant de voir que ça part de la commune, notamment. Et vraiment, cette histoire est bouleversante, elle est très humaine, et donc je conseille aux jeunes de le lire, chez Casterman, Carnet d'Orient.
Un petit mot sur le plan vélo, parce que je sais que le sujet tenait à cœur à Jackie Isabello.
Est-ce que Michel veut dire que c'est Guy Mollet qui a autorisé la torture à un élu socialiste?
Arrêtez. Le plan vélo qui est donc présenté ce vendredi par Édouard Philippe, il est accompagné de François de Rugy et d'Elisabeth Borne, donc cet après-midi, il va donc développer ce plan vélo qui vise à encourager les Français à tripler la part du vélo dans les déplacements des Français d'ici à 2024.
25 mesures. On va pédaler, mais c'est quand même quelque chose de positif pour la France. On est complètement dans les bouchons en centre-ville, et les gens, je ne sais pas pourquoi, ont la flemme de pédaler.
Ah, moi, je voulais juste peur. Moi, je ne parle pas de flemme, mais moi, je le ferai. Mais 25 morts le mois dernier.
Parce qu'ils ne respectaient pas la vitesse à 80 km/h.
80 km, voilà.
Non, il y a 25 morts aussi, parce que quand il n'y a pas de piste cyclable qui permet...
Bien sûr, il y a un problème d'équipement.
Quand les automobilistes, gens à moto ou à un scooter ne sont pas habitués à avoir des vélos à côté, là c'est dangereux.
Et que les vélos font un peu n'importe quoi aussi.
Et qu'il n'y a pas forcément de code de la rue.
Il faudrait qu'ils réapprennent le
code de la route. Il faut quand même que les gens prennent conscience. Moi je suis cycliste et quand on est en vélo, bon, on pue un peu sous les bras, mais au feu rouge quand on s'arrête, parce qu'il y a beaucoup de cyclistes qui ne s'arrêtent pas au feu rouge, on peut discuter avec son voisin. Derrière vous, il y a 200 bagnoles, chacun est tout seul dans sa voiture, il boit, il mange des chewing-gums, il grossit, il est dans la pollution, il pollue.
Vous m'espionnez ou quoi?
Non. Et qu'en vélo, en revanche, on est déjà beaucoup plus dans le communautarisme, dans le partage. Et je voudrais faire une parenthèse, parce que j'ai une écologiste à côté de moi, et je suis beaucoup plus écologiste que l'écologiste, parce que je refuserais d'appartenir à un parti. C'est que je suis contre les vélos électriques pour deux raisons. C'est qu'on pédale moins et qu'on maigrit moins et que c'est moins d'efforts physiques. Et la deuxième raison, c'est que c'est pas écologique du tout, puisque c'est chargé par le nucléaire et que je suis pour la fermeture de toutes les centrales. Donc le vélo, mais il faudrait que Macron avance un peu plus pour que ce soit des vrais vélos, qui est vraiment un stand, une culture, comme il est allé au Danemark, je ne sais pas vous rappeler, on l'a vu pédaler avec le Premier ministre ou le gouverneur danois, et c'était chouette de se dire, plutôt que de venir avec un taxi qui ne peut pas rouler, une voiture de police devant pour faire le ménage, Macron, avec Brigitte, se déplace en vélo, ça aurait
formidable.
De la gueule.
Alors,
petite parenthèse, je note que vous ne verrez jamais aucun socialiste à qui on dira je suis plus socialiste que vous et moi je suis un vrai socialiste. Vous ne verrez jamais aucune personne de droite
alors
à qui on dira
on est plus écologiste que vous.
Exactement.
Mais moi je le suis,
et
c'est pas
fait,
à dire, c'est vrai.
Mais en fait, vous connaissez rien de mon parcours et de ma vie.
Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense
vraiment
que c'est bien. Maintenant, il faut. Alors, je vous disais que j'étais fils de pompier, mais je suis le père d'un jeune sapeur-pompier. Et donc, effectivement, je trouve que la prévention, c'est indispensable parce qu'il y a de plus en plus d'accidents, qu'ils n'ont pas de carénage autour d'eux. Et que, comme je vais citer un taxi, mon taxi d'hier, qui m'a dit qu'ils se sentent investis d'une mission écologique et ils font n'importe quoi et ils mettent leur vie en danger. Maintenant, c'est bien de pédaler aussi.
C'est bien aussi. Vous retrouverez André Berkoff avec Céline Alonso qui reçoivent Bernard Lavillier qui publie un livre, Le poète aux sept vies. Et il sera. Non, ça s'appelle Je n'ai pas une minute à perdre, je vis. Et il sera en concert à la Fête de l'Humanité ce week-end. Tous à la Fête de l'Humain. Allez, on se retrouve lundi. Très bon week-end à tous.